100% d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Bonjour. Dans presque toute l'Europe, le prix des biens immobiliers a augmenté ces dernières années, 40% en plus en moyenne entre 2015 et 2021 selon Eurostat. Mais c'est pour les locataires que la situation est la plus difficile. Un Européen sur deux consacre pas loin de la moitié de ses revenus à son loyer. Associé à l'explosion des prix de l'énergie et à l'inflation, de nombreux pays comme l'Autriche craignent des expulsions massives de locataires et une véritable crise du logement. Notre correspondante en Autriche s'est rendue dans la petite ville de Ster, dans le nord du pays. Là-bas, les associations tentent de venir en aide aux locataires, mais pour combien de temps ? Le reportage de Céline Béal.
Dans les locaux de l'association Wohnensteier, au nord de l'Autriche. Au premier étage, un homme se fait couper les cheveux par une employée. Ici, c'est l'accueil de jour. Des personnes sans domicile fixe ou qui traversent des difficultés viennent à l'association pour faire une lessive, prendre une douche ou tout simplement parler un peu avec ou sans coupe de cheveux. Sylvia Furweger dirige les lieux.
À l'accueil de jour, nous avons 25 ou 30 personnes qui viennent chaque jour. En hébergement d'urgence, nous avons en ce moment 15 personnes. Nous sommes complets. Quant à notre service qui s'occupe de la prévention des expulsions, il traite normalement dans les 130 dossiers par an, mais ce sera certainement plus cette année. On voit les chiffres augmenter.
Comment Sylvia Furweger explique-t-elle ces chiffres en hausse dans une ville, Steyr, qui compte 38 000 habitants ?
C'est clairement dû au prix qui augmente dans tous les domaines, la nourriture, le gaz, l'électricité. Nous remarquons que de plus en plus de personnes issues des classes moyennes viennent nous demander notre aide, surtout à la prévention des expulsions. À cela s'ajoute que les aides sociales ont été réduites ces dernières années.
En Haute-Autriche, une région industrielle, le gouvernement local, dirigé par les conservateurs, mène une politique restrictive en matière sociale. La particularité de l'association Wohnensteier est qu'elle s'occupe des problématiques de logement auprès de larges pans de la population. Au premier étage, les sans-abri. Au troisième, on rencontre monsieur et madame tout le monde. La retraitée Ingeborg Grisler est venue demander de l'aide pour la première fois de sa vie.
Ça commençait à devenir urgent, il fallait que quelque chose se passe. J'ai eu mon bailleur au téléphone et il m'a envoyé une liste d'endroits où je pouvais demander de l'aide. C'est comme ça que j'ai trouvé cette association.
À 67 ans, elle vit du minimum vieillesse, un peu plus de 1000 euros tous les mois. Elle est surendettée depuis 40 ans et la faillite du magasin dont elle était propriétaire. Le décès de son compagnon il y a 3 ans, puis l'inflation viennent à bout de ses finances. 6 mois durant, elle ne paye plus son loyer de 490 euros. Jusqu'à ce que son bailleur lui annonce son expulsion imminente en octobre dernier. Ingeborg Grisler panique.
C'est n'importe quoi, parce que si je dois prendre un nouveau logement, il me faudra encore trouver de l'argent, payer une caution. Où est-ce que je trouve cet argent, moi ?
Il y a un an, le gouvernement fédéral a mis en place un programme d'aide appelé Wohnschirm, bouclier logement. Les travailleurs sociaux qui luttent contre les expulsions peuvent s'y adresser, comme l'explique l'un d'entre eux, Ewald Rolinek, qui suit le dossier de la retraitée.
Ce dispositif a été créé au moment de la crise du Covid pour les loyers impayés à partir de mars 2020. Il y a des conditions de revenus. Il faut trouver un compromis avec le bailleur qui accepte que la personne reste dans son logement si le programme prend à sa charge les impayés. Évidemment, ce système ne fonctionne que si le locataire s'engage à résoudre son problème de paiement de façon durable.
Pour assurer qu'Ingeborg Grisler ne fasse pas à nouveau défaut de paiement, l'association l'a aidé à mettre en place un plan strict d'assainissement de son surendettement. Un grand soulagement pour la première concernée. Cependant, aider les locataires en crise n'est pas seulement une question individuelle, assure la directrice de Wohnensteier. Pour Sylvia Furweger, La collectivité a tout à y gagner.
Les expulsions coûtent énormément d'argent, pas seulement aux bailleurs concernés, mais aussi à l'État, la municipalité. Il y a des coûts de tribunal, l'huissier doit se déplacer. Depuis 2006, en Haute-Autriche, avant toute expulsion, il y a une loi qui oblige les bailleurs à informer les locataires des programmes d'aide qui existent. C'est à ce moment-là que notre association a été créée. Depuis, nous luttons pour que personne ne se retrouve sans domicile. Les personnes privées de logement coûtent également de l'argent à l'État et à nous tous.
En Autriche, les loyers de quelque 900 000 logements sont indexés sur l'inflation. Résultat, en avril, certains de ces logements vont voir leur loyer augmenter de 9%. Dans ce contexte extrêmement tendu pour les locataires, le chancelier fédéral, le conservateur Karl Nehammer, a promis qu'il travaillait à l'élaboration d'un système pour amortir ce choc financier. Mais depuis, aucune mesure concrète n'a encore été annoncée.
Une aide pour les plus précaires, une allocation de 500 euros par mois perçue par 2,5 millions d'Italiens sans emploi ou à très faible revenu. Ce revenu de citoyenneté est sur le point de disparaître, ce qui suscite l'inquiétude des plus pauvres. Le tout nouveau gouvernement de Giorgia Meloni a promis en effet de réformer cette aide mise en place il y a 4 ans. À la place, une autre prestation sociale avec des règles plus strictes, mais qui risque d'exclure plus de 200 000 citoyens dans une Italie où le nombre de personnes dont le besoin grandit. Les précisions de Blandine Hugonnet à Rome.
Entré en vigueur en 2019 sous le gouvernement populiste de Giuseppe Conte, le revenu de citoyenneté était une mesure phare du mouvement 5 étoiles censé réduire la pauvreté. Mais rapidement critiqué, à la fois pour son coût trop lourd, 8 milliards d'euros par an, et pour son inefficacité, accusé notamment de favoriser le travail au noir et la fraude. Tous les camps politiques, de gauche à droite, n'ont donc cessé de demander l'abolition ou la révision du revenu de citoyenneté, allocation d'environ 500 euros par mois perçue par près de 2,5 millions d'Italiens sans emploi ou à très faible revenu. Sauf que la nouvelle version de cette aide proposée par l'actuel exécutif dominé par l'extrême droite ne convainc pas non plus. Selon les premiers brouillons, cette prestation, qui prendrait le nom de mesure d'inclusion active, laisserait un quart des bénéficiaires de côté. Les critères d'attribution seraient plus restrictifs, avec un seuil de revenu abaissé et une coupe de 25% si le demandeur n'est ni mineur ni retraité, c'est-à-dire en mesure de trouver du travail. L'idée principale étant de limiter l'assistanat, comme promis par Giorgia Meloni pendant sa campagne. La durée de l'aide, qui passerait de 18 à 12 mois, et le montant du budget prennent aussi un coup. Objectif, économiser 3 milliards d'euros par an. Économie sur le dos des plus démunis, riposte parti de gauche et association de lutte contre la pauvreté. Un durcissement qui inquiète d'autant plus que l'Italie est un des rares pays d'Europe sans salaire minimum et que la pauvreté s'accentue. Alors que le nombre de familles dans le besoin aurait doublé après un an d'inflation record en Italie, 260 000 risquent de se retrouver exclus de cette nouvelle mesure prévue pour remplacer le revenu de citoyenneté dès l'été prochain.
Parier en ligne tout en prenant de la cocaïne est une pratique de plus en plus courante chez les jeunes Irlandais. C'est ce que révèle une étude de l'Institut de recherche économique et sociale. Depuis 2015, le nombre de joueurs addicts a quadruplé chez les 17-20 ans. Les femmes sont aussi de plus en plus nombreuses. Dans certains centres de désintoxication, on parle d'une multiplication par 20 du nombre de personnes accros au jeu. Laura Tauchanoff s'est rendue dans une clinique de désintoxication au nord de Dublin, dans le château de Smarmore. Son reportage.
Derrière la porte rouge du château de Smarmore, une bâtisse du XIVe siècle avec donjon entièrement rénové, un patient sur 10 est en cure de désintoxication au jeu d'argent.
Je suis venu ici persuadé que j'allais me suicider si jamais ça ne marchait pas. Et je reviens 3 ans après et la vie n'a plus rien à voir.
Les mains de James sont agitées. Aujourd'hui guéri, il revient pour la première fois à la clinique qu'il a sevré du jeu.
Je pariais 16 heures par jour dans ma chambre, sans contact avec le monde extérieur. J'avais entre 12 et 15 000 euros de dettes. Les chevaux, le bingo, la roulette, je pariais sur tout. Une heure passait et je ne me souvenais pas de ce que j'avais fait. Ça allait à 100 km/h. Je disais, prête-moi de l'argent ou je me tue. J'ai perdu 2 ou 3 copines à cause des jeux. Mon travail a été impacté. Ma vie était chaotique. Je faisais des prêts à la banque. Je dépensais chaque centime du lundi au dimanche. Je dormais 2 heures par nuit. J'arrivais à dormir 6-7 heures seulement si je n'avais plus rien. Et puis la chasse à l'argent reprenait.
Le premier jour de sa cure en 2020, le policier de 37 ans fait une crise d'angoisse. À l'heure où les courses hippiques démarrent, son corps est en manque.
Au bout de quelques jours, j'ai commencé à m'investir dans le programme, à écrire des choses que je n'avais pas envie d'entendre. Et je me suis aperçu que mon enfance n'était pas si merveilleuse que ça. Les joueurs anonymes, c'est ma chimiothérapie. Sans ça, je meurs. Est-ce que je pourrais placer un pari à nouveau un jour ? Non. Je n'achèterai pas un jeu à gratter, je ne participerai pas à un tirage. Je ne participerai même pas à un jeu à la radio. Votre addiction fait des pompes dans le jardin et attend un moment de faiblesse pour vous sauter dessus. Mais j'ai avancé, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai la garde de ma fille 3 jours par semaine et j'ai une super relation avec mes parents. Ça prendra encore quelques années pour réparer ce qui s'est cassé.
Ces joueurs compulsifs suivent le même traitement que des alcooliques ou des toxicomanes. Du repos dans un premier temps, puis des réunions en groupe, de la thérapie individuelle et des rendez-vous médicaux. Plantés dans le jardin, des panneaux jaunes indiquent les étapes à franchir pour guérir. Étape 8, au pied d'un grand arbre, s'engager à réparer les relations abîmées par l'addiction. Alexandro Frassanito est l'un des psychothérapeutes.
On va aller voir la piscine.
On dirait un ancien corps de ferme un peu.
Oui, c'est ça. C'était toutes des étapes pour chevaux, je crois.
On a un ping-pong, une piscine. Pour l'instant, c'est vide. Ils sont tous en session. Ou au déjeuner, peut-être.
C'est bientôt l'heure du repas, ouais, je crois. Ouais. Voilà. Et au fond, vous avez les deux portes avec le sauna et le hammam. Et c'est vraiment parce que c'est très intensif. Un groupe de thérapie le matin, un groupe de thérapie l'après-midi.
Ils ont besoin de se détendre un petit peu.
Ils ont besoin de se détendre, de se relaxer. Et pour laisser le moins de temps, on va dire, à l'ennui et aux opportunités. Après.
Est-ce que vous observez des sensations de manque ou enfin, quelque chose qu'il y aurait avec une autre addiction quand ils arrêtent de jouer ou pas du tout?
Oui. Les tremblements, parfois des sueurs, cette petite voix qu'ils ont dans leur tête où l'addiction arrive et va leur dire « Il est temps pour toi de retourner jouer ». C'est ça qu'on approche avec eux justement pour essayer de voir quelles solutions on peut mettre en place pour combattre tous ces symptômes psychologiques justement.
Ces parieurs cumulent souvent une addiction à la cocaïne. Ils sont aussi de plus en plus jeunes, remarque Keith Cassidy, le manager de la clinique qu'on retrouve sur un gros fauteuil en cuir dans la bibliothèque du château.
Il y a 25 ans, les salles de Paris n'avaient même pas le droit d'ouvrir le dimanche. Il y a aussi une prolifération des jeux sur Internet. Donc c'est 24 heures sur 24, alors qu'avant, c'était plus contenu. L'addiction peut s'installer à un plus jeune âge et prendre une forme plus grave, parfois avant même que la personne atteigne l'âge de 20 ans. Avec ce genre d'addiction, on peut jouer en cachette pendant très longtemps avant que les proches se rendent compte d'un problème. J'ai rencontré une femme qui a réalisé seulement quand la police est venue lui retirer la maison que son mari pariait. On a beaucoup de travail à faire en Irlande pour sensibiliser sur le mal que le jeu peut causer.
Malgré l'explosion des paris en ligne, la législation n'a quasiment pas changé depuis 1956. Les plateformes continuent de proposer des parties gratuites pour retenir les joueurs à leurs dépens. Devant l'étendue du désastre, le patron d'une des plus grandes entreprises de jeux de hasard a même démissionné en 2016. Mais rien n'a changé depuis.
Plus de neige dans le village où on a passé ses vacances enfants, moins de pluie, moins de saisons. Les bouleversements liés au réchauffement climatique modifient notre environnement parfois de manière irréversible, ce qui provoque chez certains de la solastalgie. Qu'est-ce que c'est ? C'est la chronique en un mot de Willowen Munoz-Boileau. Bonjour Willowen.
Bonjour Léa-Lisa, bonjour à tous et à toutes.
Willowen, c'est quoi la solastalgie ?
Eh bien, c'est la contraction de deux mots, solatium, qui signifie réconfort en latin, et algia, le suffixe grec qui renvoie à la douleur. Donc la solastalgie, c'est la douleur de perdre son lieu de réconfort. Et c'est Glenn Albrecht, un philosophe de l'environnement australien, qui a créé ce concept en 2003. La première fois qu'il a utilisé ce terme, c'était pour décrire le sentiment de certains Australiens qui souffraient de voir leur habitat et leur environnement détruits par l'activité humaine, comme l'exploitation minière et forestière. Et par la suite, bien il a élargi le concept au sentiment de tous les individus qui voient leur lieu de vie et les paysages auxquels ils sont attachés être altérés par le dérèglement climatique et qui en souffrent. Et cette souffrance, elle peut se traduire par plusieurs émotions, comme l'explique Jonathan Journiac. Il est psychologue clinicien et docteur en psychothérapie à l'Université de Strasbourg.
Toutes les émotions peuvent être concernées. Ça peut être une forme de dépression réactionnelle, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la culpabilité, ça peut être de la colère, ça peut être de la peur. Et la solastalgie, en fait, elle fait partie pleinement de l'éco-anxiété. Alors, l'éco-anxiété, c'est la peur, alors pas la peur de l'écologie, mais la peur, ici, des bouleversements climatiques qui sont en train de survenir. C'est une peur qui est surtout prospective, c'est une peur du futur. En revanche, la solastalgie, elle, c'est plutôt une peur liée au passé, en fait, liée à la nature qui a changé, au monde qui a déjà changé. On voit voilà, des gens qui vont dire qu'ils constatent qu'il y a moins d'insectes, que les jardins dans lesquels ils allaient ont changé, sont plus secs, etc.
C'est donc la temporalité qui distingue les deux concepts, mais dans les deux cas, on a affaire à une souffrance, à un mal-être lié au dérèglement climatique et qui se traduit par des troubles du sommeil, une perte de poids ou un comportement dépressif.
Et ça touche qui, cette souffrance liée au dérèglement climatique ?
Eh bien, ça touche énormément de jeunes. Selon une étude publiée par la revue scientifique The Lancet, un jeune de 16-25 ans sur deux souffre au quotidien d'une angoisse générée par la crise climatique. En Europe, ils sont en moyenne 56%, un chiffre qui atteint même 65% au Portugal, qui fait face depuis 2017 à une forte augmentation d'incendies sur son territoire. Mais contrairement aux idées reçues, eh bien, les plus âgés, eux aussi, souffrent de solastalgie et d'éco-anxiété, comme a pu l'observer le psychologue et psychothérapeute Pierre-Éric Sutter, spécialiste de ces sujets.
Moi, je l'ai d'abord constaté ma patientèle. J'ai des quinquas, j'ai des cadras, j'ai des trentenaires, j'ai des vingtenaires. Et je voulais en avoir le cœur net. Donc, dans le cadre de l'observatoire que j'ai créé, qui s'appelle l'Observatoire des vécus du collapse, on a fait une étude nationale sur 3500 Français et on s'est rendu compte que la classe d'âge n'était pas un critère.
Et d'après ce même observatoire, le seul critère en fait, qui distingue les solastalgiques et les éco-anxieux des autres, c'est que ce sont généralement des gens très diplômés.
Comment ces patients sont-ils pris en charge aujourd'hui ?
Alors nous avons posé la question à nos deux spécialistes et leurs méthodes sont assez similaires.
Moi je vais plutôt travailler sur déjà la gestion des émotions, ça va être une première étape, et puis ensuite trouver les actions qui vont leur faire du bien, des actions qui font sens. Ça peut être des éco-gestes, ça peut être le fait de parler à des gens pour essayer aussi de les convaincre de se mettre dans une optique plus saine vis-à-vis de l'environnement, ça peut être d'écrire un livre.
Ce que nous décrit ici Jonathan Journiac, c'est ce que son collègue Pierre-Éric Sutter appelle un éco-projet.
Petit à petit, avec la notion d'éco-projet, je ramène donc mes patients à l'action, c'est-à-dire convertir une énergie négative en une énergie positive pour s'épanouir dans un éco-projet qui soit au service du plus grand soi, c'est-à-dire le vivant et la planète. Par exemple, vous constatez depuis un certain nombre d'années que votre immeuble est une passoire et vous arrivez à convaincre votre syndic de calfeutrer l'immeuble et d'arrêter que ce soit une passoire thermique. Donc mes patients éco-anxieux, au bout de 6 mois, 1 an, ils arrivent à trouver leur éco-projet et ils se soignent eux-mêmes en soignant le monde.
Ces solastalgiques et éco-anxieux témoignent ainsi d'un amour du monde, selon la formule de Corinne Pelluchon, une philosophe qui voit en ces hommes et femmes des avant-gardistes, des sentinelles de notre civilisation et qui juge la souffrance et le mal-être qu'ils ressentent nécessaires pour rendre possible toute forme d'espérance.
Pourquoi ? Parce que l'espérance, c'est le contraire du déni. Ça n'a rien à voir avec la posture optimiste qui supposerait que la technique réglerait tout. Justement, l'espérance suppose de prendre conscience des limites des solutions trop faciles, de perdre toutes ces illusions, y compris celle de la maîtrise. Et c'est justement quand on a perdu toute illusion, qu'on est lucide, que l'on peut voir dans le réel des alternatives positives à un autre modèle de développement et un horizon qui donne envie d'agir. Donc c'est la force transformatrice de l'espérance.
Voilà un beau message d'espoir envoyé aux solastalgiques et éco-anxieux qui se seront peut-être reconnus dans cette chronique. Merci Willowen Munoz-Boileau. À bientôt. Accent d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. On vous donne rendez-vous sur notre site rfi.fr ou en podcast sur votre plateforme d'écoute. À demain.